Le Loft Music Sud Radio 20h-21h, Yvan Cugius.
Un peu de parfum demeure toujours sur la main qui te donne des roses. C'est un proverbe chinois.
Le Loft Music Sud Radio 20h-21h, Yvan Cugius.
Merci de nous accueillir chez vous et de venir chez nous également. Ce soir en direct dans Le Loft, l'une des grandes révélations chansons de ces dernières années, Teamed Up.
Juste pour te plaire, j'ai tout tenté pour que tu me vois. J'ai même dansé juste pour toi. J'ai balayé ce qu'on pense de moi.
On parle de son nouvel album, La Course Folle, qui ressemble un peu à l'Italie. Il y a du linge étendu sur les terrasses et c'est joli. Et puis, coup de cœur, coup de projecteur du Loft sur Clémentine, le mystère de cette artiste française pas assez connue chez nous et pourtant superstar au Japon. Discussion également dans le Loft autour de cet endroit légendaire, le château d'Hérouville, près de Paris, lieu de résidence et d'enregistrement qui a marqué l'histoire du rock entre 1970 et 85, en accueillant des David Bowie, Elton John, Iggy Pop, Marvin Gaye et autres Pink Floyd, ou bien Lavilliers, Nougaro, Charles Ely. J'en passe et des meilleurs pour des enregistrements mythiques de légende. On en parle avec Laurent Jaoui, auteur de Hérouville, le château hanté du rock chez Castor Music. Merci d'être avec nous ce soir, une jolie tablée qu'on va découvrir dans quelques instants. Le temps d'écouter, juste pour te plaire, extrait de l'album La Course Folle de Teamed Up. Il est en direct avec nous ce soir.
Sous les lueurs poignardes du crépuscule sur le parking, on m'a forcé à boire. Et j'ai le pull taché de jean, de grandes lampées, de myrtille, vodka, avalé à la fiole. C'était juste avant que la nuit ne pâlisse et s'étiole. On pousse encore un peu le volume. Les gens se bousculent dans le noir. Les ambiances de pogo, de brume, de baisers et de verre au comptoir. J'ai tout tenté pour que tu me vois. J'ai même dansé juste pour toi. J'ai balayé ce qu'on pense de moi. Les silhouettes qu'on peut confondre au bout d'un visage, une impasse. Tu m'as souri puis t'es parti. Depuis je compte les jours, les heures. Dans la fumée il est minuit. Je voulais juste que tu me brises le cœur. J'ai tout tenté pour que tu me vois. J'ai même dansé juste pour toi. J'ai balayé ce qu'on pense de moi. Juste pour te plaire. J'ai tout tenté pour que tu me vois. J'ai même dansé juste pour toi. J'ai balayé ce qu'on pense de moi.
Plaire, extrait de La Course Folle, Teamed Up, qui est avec nous ce soir. Salut Tim, merci d'être là, content de t'avoir.
Alors, bah de même.
Je me dis depuis le temps, on ne s'est pas vu depuis un petit moment, et là c'est carrément qu'est-ce qui se passe quoi. Le pull taché de jean, on m'a forcé à boire, tu m'as dansé. Non mais attends, qu'est-ce qui s'est passé Teamed Up?
Ouais, il y a de l'ivresse sur ce disque, il y a du lâcher prise en tout cas, je crois que... j'avais besoin de ça ces derniers mois, de retrouver une certaine forme de légèreté et de sérénité et de vie, quoi, de revivre. Je, tu vois, je me lasse pas là en ce moment de voir dans Paris les gens attablés dehors.
Bien sûr.
Retrouver cette, ouais, cette forme de vivre ensemble qui fait quand même trop du bien.
C'est toujours l'éternelle contrainte qui est motrice quand on écrit. C'est-à-dire que le contexte amène peut-être à aborder des choses qu'on n'aurait pas imaginées avant. C'est-à-dire que l'immobilité qui a été la tienne pendant le confinement t'a poussé à faire des choses que tu n'aurais certainement jamais fait autrement.
Bien sûr, ouais, c'est un disque qui était assez imprévu dans sa temporalité. J'ai sorti mon deuxième album en janvier 2020. J'ai fait la première date de tournée et je suis rentré chez moi. Donc, tu vois, j'avais pas prévu d'enchaîner si vite. Et finalement, je crois que c'est pour ça que c'est un disque aussi qui respire, se lâcher prise, et parce qu'il n'était pas prévu, que les chansons sont arrivées dans une forme de béatitude et sans pression, quoi. Donc c'est un disque qui est peut-être plus ensoleillé que ce que j'ai pu faire avant. Ouais. Il y a toujours cette idée de mélancolie heureuse, mais qui s'estompe aussi un peu pour,
oui,
pour du
entend,
soleil.
Dans ce texte d'ailleurs, quand même, il y a des petites phrases qui laissent voilà, la patte entière de Teamed Up. On décide tout d'un coup de faire un album sur une thématique où c'est finalement, on se laisse un peu surprendre d'une chanson à l'autre en se disant, tiens, je constate que je suis plutôt sur cette thématique, ou alors c'est un schéma qu'on décide au départ.
Ah, je pense que ça dépend des disques, ça dépend des projets. En tout cas, celui-ci, c'est plus fait en effet de fil en aiguille, tu vois, les chansons qui s'adossaient les unes aux autres, petit à petit. C'était pas un disque qui était à tout prix préparé, donc même souvent, mes deux précédents, j'avais déjà le titre de l'album avant même d'avoir fini la composition des chansons, alors que là, c'est assez empilé, et finalement, cette idée de légèreté, d'Italie.
C'est le titre d'une chanson d'ailleurs, ouais, magnifique,
avec
piano-voix.
Thomas & Co. De gourmandise, tout ça est venu un peu au petit bonheur, la chance, et créer du fantasme et du désir de revivre ce qu'on n'avait plus.
C'est plus compliqué d'écrire des choses plus dans la contemplation, comme ça, dans l'enthousiasme, dans la légèreté, que ce que tu as fait jusqu'à maintenant, au final?
En tout cas, j'ai mis du temps à trouver cette forme de lumière.
C'était
aussi
nécessaire de trouver cette légèreté-là.
Alors, est-ce que c'était nécessaire? Je sais pas. Je crois que c'est pas forcément. Enfin, oui. En tout cas, il y avait cette envie d'ouvrir des horizons différents et d'aller vers quelque chose de plus aérien, de plus serein aussi. Mais peut-être qu'il fallait justement deux disques un peu plus cérébraux, je dirais, entre guillemets, avant. En tout cas, on commence...
J'aime bien les disques cérébraux.
Non, mais c'est vrai qu'on commence... C'est un métier où, quand tu commences, t'as envie qu'on te prenne un peu au sérieux, quand même.
C'est vrai.
Et donc, peut-être qu'il en fallait deux pour gagner en confiance aussi.
C'est ça. La scène n'y est pas étrangère, j'imagine. Toi, le garçon que j'ai découvert très timide au départ, effectivement, a été certainement épanoui et ouvert, c'est ouvert aussi au contact des gens sur la scène et dans des concerts.
Oui.
Forcément.
La scène, c'est un élément tellement vivant, et moi, je fais des disques pour ça, en fait.
Ouais.
Et y avait aussi, justement, cette envie de retrouver du public, et donc aussi d'avoir des chansons qui puissent permettre un échange qui soit différent et pas être uniquement, tu vois, dans une solennité ou une intimité sur scène, mais aussi avoir des morceaux qui puissent respirer un kiff mutuel où t'as des gens qui dansent, qui chantent, et ça, c'est, ouais, ça me faisait plaisir rien qu'à l'idée de l'imaginer.
Et alors, dans cette course folle de Teamed Up, cet album, il y a de belles envolées de cordes à ciel ouvert.
À ciel ouvert.
Et puis il y a l'aventure, celle qui rend éternellement heureux, l'aventura.
Ton corps, nu contre mon corps, sous la lune un trésor, un collet serré. La mort, vue de l'autre bord, me ferait bien du tort, et le reste emporte.
Il y a le désir de mourir, certes, mais le plus tard possible, vieux dans les bras de son amour.
J'aimerais mourir vieux. C'est vrai, dans tes bras de soie, ce serait merveilleux, mais jamais ça n'arrivera.
Il y avait déjà cette évocation du mourir vieux, hein, sur, si je ne m'abuse, en 2018, sur une chanson qui éponyme.
Exactement.
Ça, c'est un vieux fantasme, mourir vieux.
c'était un lien, avec cette chanson. J'aime bien, tu sais, tisser une forme de toile entre tes albums et laisser de soi quelque chose d'articulé, et donc d'avoir un fil rouge qui puisse se tendre d'œuvre en œuvre. Et c'était l'idée justement sur cette chanson de dire qu'a priori on va pas mourir vieux, quoi. Enfin, vu la planète, vu le bordel de ce monde, a priori on peut mettre une croix là-dessus. Mais
quand t'as le temps, ceci dit, la différence,
oui,
c'est ça.
Oui, oui. mais voilà, dans cette chanson, il y avait quelque chose de un peu shakespearien, d'aller dans ce tragique-là de bon mourir vieux, je sais pas, mais en tout cas mourir à deux, ce serait déjà pas mal.
C'est joli. L'univers est une aventure.
L'univers est une aventure.
J'ai pas pris cet extrait au hasard, parce que la voix qui arrive là,
les amis, les pères,
c'est la voix de qui ça?
C'est la mienne.
Alors c'est quand même intriguant, parce que quand je l'ai entendu, j'étais persuadé que c'était pas toi. C'est voulu, cette voix si différente entre les deux? Il y en a une qui est dans le souffle, et puis tout d'un coup quand celle-là arrive, il n'y a plus du tout de souffle, on gagne un octave presque. C'était voulu?
En fait, je crois que c'est un disque aussi où j'ai trouvé ma voix VOX.
Et VOIE.
Et VOIE peut-être aussi, mais en tout cas, oui. Tu sais, on parlait de scène, et je trouve que la scène m'a apporté beaucoup d'apprentissage là-dessus, sur l'instrument, en fait, qu'est la voix humaine. Et je me suis un peu sorti de ces textes parler-chanter, avec l'idée de fleuve aussi dans les paroles, où du coup, forcément, tu condenses les mots que tu chantes, donc il y a moins de scansion. Et là, c'est un disque où j'ai eu envie d'aller trouver ce côté au perché et d'assumer en fait cette voix de chanteur. Je suis un chanteur, je suis pas un rappeur.
Oui,
tu vois.
Mais tu chantes d'ailleurs entre guillemets plus sur cet album que sur les autres.
Ouais,
au niveau mélodique, il y a plus d'amplitude de mélodie qu'il y en avait avant.
Ouais. Ouais.
Et ça te plaît, et t'y prends goût.
Ouais, j'y prends vachement goût. En fait, avoir des refrains aussi qui cristallise un moment dans une chanson où tu reviens à un hymne, et on revient à ce rapport au public. C'est tellement plaisant d'avoir des refrains qui peuvent revenir dans une chanson que les gens chantent avec toi.
Et dans l'album La course aux folles de Team Dup, il y a une balade à Monte Calvario.
Du haut des falaises d'ocre, elle plongeait à la verticale. Au fond du lapis, lazuli, les corps brûlants panés de sable.
En duo avec Aurélie Sada, que vous connaissez à travers le duo Brigitte, et un piano-voix qui arrive comme ça avec des accents très jazz, Thomas Enko est au piano pour la légèreté.
J'ai faim de pâtes d'olive, de copeaux de parmesan, de citron, de basilic. J'ai soif de vin.
Vous allez écouter ce chorus là qui l'envoie et qui est d'autres volets. Écoutez, je crois que c'est par là. Un joli phrasé de jazz. On évoquait Claude Nougaro avec Laurent Jaoui juste avant de commencer l'émission. On pourrait faire un rapprochement avec Maurice Vander, qui a été un grand pianiste de Nougaro et qui aimait ses envolées comme ça qu'on entend chez Thomas Enko sur l'album de Team Dup. Et puis en fait, cet album, il est gorgé de... Ça se passe essentiellement en Italie, hein, cette course folle de Team Dup, ce nouvel album. Parce que l'Italie, c'est tout ça à la fois, quoi. C'est l'élégance, le raffinement, le soleil, la chaleur, la bienveillance, la bonhomie, tout ce qu'on aime en fait. Tout ce qui nous manque ici.
Exactement, ouais. Et il y avait cette idée de cinéma à l'italienne aussi.
Ouais.
Tu sais, ces années Nouvelle Vague, Fellini, qui ramènent beaucoup, enfin moi que j'aime beaucoup, qui ramènent vachement de poésie à la fois ce chic italien et la gourmandise, quoi. La
Mais
bouffe,
oui,
le vin italien, cette légèreté des rues de Naples.
Le piano, le jazz au parmesan, ça aurait pu presque être un titre de chanson. Hérouville, le château hanté du rock, Laurent Jaoui est avec nous, préfacé par Benjamin Biolay au Castor Music. Voilà, un endroit légendaire. Alors, c'est bien parce qu'on fait un peu le lien, parce que Team Dup aime bien associer des endroits à ses chansons. Il aime bien, voilà, l'Italie, on a parlé du Monte Calvario. Là, précisément, c'est presque le lieu qui a tout fait. Alors,
ah oui, clairement.
Laurent Jaoui.
C'est au milieu des champs, c'est à côté d'Auvers-sur-Oise, les tableaux magnifiés par les impressionnistes, et c'est la campagne nue, quoi. Hein, c'est le dénuement total, c'est dans un village. Je me défie quiconque de trouver le château, parce que quand vous passez en voiture, bah, vous allez forcément passer devant sans vous en rendre compte, vous êtes obligé de faire demi-tour, c'est un tout petit village, puis vous allez trouver cette grande grille, et puis ce parc, cette piscine, ces cours de tennis, et derrière ce château imposant, datant du XVIe siècle, qui a été rebâti au XVIIIe siècle. Et c'est là-dedans que pendant 15 ans, les plus grands artistes internationaux et français sont passés enregistrer des albums dans un anonymat total. Oui. On leur fichait une paix royale.
Oui. Alors, on parle d'Elton John, David Bowie, les Pink Floyd, Iggy Pop, Marvin Gaye, c'est dingue, Bee Gees. Et puis, ici, très lié aussi à l'aventure de Magma, on parlait de Maurice Vander, alors citons Christian Vander, hein, qui a... Le groupe est un peu lié, l'histoire du groupe, avec le château.
Oui, d'abord parce que le bassiste inaugural du groupe, Laurent Thibault, qui ensuite est devenu producteur, a repris le château en 1974. Le château avait été créé par Michel Magne, qui est un musicien contemporain, ouais, totalement génial, assez...
Allumé,
qui a fait la musique, notamment des Tontons Flingueurs, hein, qui est aussi rendu célèbre pour ça. Et donc Laurent Thibault a repris le château 4 ans après que Michel Magne l'ait lancé. Et c'est vrai que Magma est apparu de manière régulière au château. Vous savez, en fait, il y avait vraiment toutes les influences de l'époque qui étaient présentes. Il y avait le groupe Gong, groupe mais progressif, voilà. Il y avait vraiment tous les courants, le rock, la musique celte, qui ont traversé les années 70 et les années 80, qui se sont retrouvés derrière ces murs un peu mystérieux.
Avec tous les excès qu'on imagine dans une période de libération des mœurs, comme ça, où tout le monde s'en donnait à cœur joie, quand même. Tu le décris dans le bouquin, on voyait régulièrement passer des jeunes filles nues qui couraient dans la cour du château, oui. Et ça n'était pas visiblement pour déplaire à certains artistes qui venaient enregistrer là.
Non, bah on est juste après mai 68, c'est vraiment l'époque où tout est possible. Enfin, c'est assez marrant, vous racontiez tout à l'heure avec Tim la manière dont on enregistre un album, la manière dont on écrit un bouquin aussi. Il a été écrit pendant le confinement, ce bouquin, quand on était privé de liberté, privé de sortie, privé de tout. Et raconter cette période où les gens avaient tout à portée de main, des repas gargantuesques, des piscines, du LSD, ce que vous voulez, à portée de main, et puis de la création artistique, c'était formidable. Oui, bien sûr, ça a été traversé par des années électriques et débridées, quoi, ouais. Franchement.
Et la présence de Van Gogh est enterré pas très loin.
Alors, il est enterré à Auvers-sur-Oise, c'est à 7-8 minutes en voiture, 5-6 kilomètres. Pour ceux qui sont allés visiter sa tombe, c'est dans un très joli village. Et oui, bien sûr, il y a tout ces esprits qui sont invoqués.
Oui, c'est ça. En quoi il est hanté, ce château, alors, finalement ?
Ah, il est hanté parce que certains ont constaté des manifestations paranormales,
des bruits un peu étranges. On tournait autour de ça depuis tout à l'heure, on est tombé.
Des pianos qui se mettent à jouer tout seuls la nuit,
ouais,
des bruits, des portes qui claquent, des chambres un peu mal fagotées, des fantômes qui rôderaient dans le jardin. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, il y avait des fêtes, etc. Je pense que ça doit un petit peu contribuer.
Des filles nues,
encore. Ouais, ça doit contribuer un petit peu à divaguer. Mais en fait, ceux qui croient aux esprits sont ceux qui veulent bien y croire, voilà, hein, c'est toujours la même chose. Mais en tout cas, il y a eu des manifestations absolument pas normales, ouais. Et ça fait partie du charme d'un enregistrement. Il y a notamment des artistes qui expliquent l'un des grands classiques, il y avait une église à 50 mètres du studio, et donc enregistrer les 12 coups de minuit et les remettre sur bande, donc ils les enregistraient, etc. Puis il y a encore des bandes magnétiques, ils recouchent la bande, il y a 13 coups. Pourquoi il y a 13 coups ? Bon, voilà, alors ça dépend dans quel état on est, hein, mais
oui, c'est ça.
Les témoignages concordent. Voilà.
C'est un peu ça. Pour compter, il faut encore être un peu clair.
Toi qui parlais de LSD, peut-être que ça a affaire à...
peut-être.
Avec ça aussi.
Peut-être.
Ouais, c'est ça. Il faut toujours, de toute façon, arriver à trouver le bon contexte, le contexte favorable à la création. Ça devient peut-être une recherche comme ça consciente à un moment donné, Team Up. On se dit, je sais que si je vais à tel endroit, ça va me procurer une inspiration de manière plus facile.
Je pense que l'inspiration se cherche aussi, ouais. Alors évidemment, il y a cette part mystérieuse et imprévisible. Elle vient aussi quand elle prévient pas, hein, quand elle arrive. Mais par contre, il faut, je crois, se donner les moyens de s'inspirer.
Se mettre en condition.
Ouais, de vivre des choses. Et en même temps, tu vois, c'est rigolo parce que ce disque, il s'est fait dans un état complètement immobile et silencieux. Et pourtant, il m'a inspiré quelque chose de très vivant. Et ça a été une révélation de me dire, en fait, t'es pas obligé forcément de voyager et de vivre des tas de trucs à tout prix pour faire des chansons.
Ouais,
mais bon, c'est quand même mieux si on peut vivre des trucs.
Oui, La fameuse idée du voyage immobile, quoi, et qui a été traitée aussi par plein d'artistes qu'on a cités à propos de d'Hérouville. Tout à l'heure, vous vous disiez, j'ai vu, parce que Laurent Jaoui est un métier accessoirement, hein, il fait un petit truc à Canal, c'est ça, c'est ça, directeur adjoint des sports de
Canal. Oui, journaliste à la rédaction des sports, oui, voilà.
Le lien, j'ai l'impression qu'il est assez évident et très souvent présent entre la chanson et le sport, en tout cas. Il y a beaucoup de passerelles, certainement.
Alors, il y en a... pas suffisamment chez nous, il y en a énormément outre-Manche. Alors là, on le sait, hein, de l'autre côté, en Angleterre, chaque artiste supporte un club de foot et affiche les couleurs, porte les maillots. Enfin, il y a aucun problème pour que les deux cultures se rejoignent. C'est un peu plus compliqué en France, mais les choses changent. Enfin, pour aller très souvent dans les stades, notamment les stades de rugby, on croit souvent des chanteurs qui sont pas là pour s'afficher, notamment Vianney,
qui est fan de rugby.
Mais dans des matchs de Top 14, du c'est pas
Toulousain
forcément des finales, hein, c'est des matchs anonymes. Donc oui, on sent quand même aujourd'hui que des passerelles commencent à s'établir, mais ça a été long. Souvent, les gens de la culture et les gens
après, il y a pas de nécessité non plus.
Non,
c'est pas même le rugby, quoi.
C'est pas une obligation.
Mais je trouve que même dans leur essence. En fait, c'est deux choses qui sont assez liées avec cette idée peut-être de beauté et de travail, d'artisanat.
De transmission d'émotions, quoi.
Bien sûr.
D'accord.
Enfin, je trouve que oui, il y a chez les sportifs un travail de longue haleine et de artiste, c'est ça aussi. Hein, il faut de la résilience et puis cette idée, tu le dis justement, de transmettre des émotions. On se prend autant de larmes devant une demi-finale Nadal-Djokovic qu'un disque.
Ouais, c'est pas faux. On prend cette métaphore à propos du rugby musical en disant que dans le rugby, il y a ceux qui déménagent les pianos et ceux qui en jouent.
Ah ouais, c'est
une métaphore musicale. T'aurais voulu être, j'allais dire, un artiste, un journaliste, Team Up.
Journaliste sportif.
Ouais,
j'aurais beaucoup aimé.
Donc, vous avez des choses à vous dire avec Laurent Jaoui. Pour écrire, pas pratiquer, c'est théoriser sur le sport, c'est quoi l'idée d'être journaliste sportif?
Justement, peut-être d'écrire cette beauté des émotions c'est tellement vivant. Je me rappelle, j'avais fait un stage à l'équipe Mag et c'était fou. C'est très ancré dans quelque chose du ventre. Moi, j'ai des souvenirs gamins de mon père qui chiale devant les JO et je trouve ça
trop beau. On se moque pas.
On risque de rechialer dans quelques semaines
pendant
les JO de Tokyo.
Et puis, on va arriver en période de Tour de France. Citons des grandes littératures du Tour de France. Antoine Blondin, Louis Nucera.
Bien sûr, le Niçois.
Le Niçois, qui malheureusement décéda sur un vélo.
Sur la Borne. Christian Laborde, qui écrit très
bien
sur le vélo, bien sûr.
Qui est du Sud-Ouest, Christian Laborde. Absolument.
C'est chez vous.
Absolument, le plus bel endroit un endroit sympa en France. Faut pas dire ça. On vous aime tous qui nous écoutez de toutes les régions que vous soyez. On revient dans quelques instants ici sur Sud Radio dans le Loft. Nous allons accueillir Clémentine pour son album Quel temps fait-il à Paris. Et puis on va jouer. Je vais sortir la trompette comme tous les soirs. À tout de suite.
Le Loft Musique Sud Radio. Yvan Cugius.
Juste pour te plaire, j'ai tout tenté pour que tu me vois. J'ai même dansé juste pour toi. J'ai balayé ce qu'on pense de moi.
Team Up, la course folle, il est avec nous. Team Up, nous accueillons également Laurent Jaoui qui sort un livre chez Castor Musique, Hérouville, le château hanté du rock, et puis Clémentine qui nous parlera de son album et qui va chanter en direct. Il y a un mixage où la batterie, comme dans les années 80, est très très présente, bien devant, avec le son de la fameuse TR-508 Roland, si je ne m'abuse, qui est bien mixé devant.
Il y a
cette volonté aussi qui a été affichée là.
Moi j'aime beaucoup mettre les rythmiques assez fortes. En fait, en France, souvent on met la voix très très devant.
Ouais,
c'est intéressant
d'ailleurs. C'est pas très
d'ailleurs.
Français dans le...
Ouais, et du coup, ça, je trouve que ça rock, ça rockise un peu l'affaire.
Tu as programmé, tu as beaucoup travaillé. Alors l'équipe, tu es fidèle, on le disait dans tes collaborations avec les gens qui te suivent depuis le début, qui ont travaillé avec toi sur les progs, mais quand même, tu as donné sur les progs, tu as programmé autant que tes copains. Là.
Ouais, c'est un album qui est co-réalisé avec mon copain de toujours, Pavan.
Oui.
Et en effet, ouais, je suis attaché à cette fidélité qui est alors peut-être inconforme, mais aussi c'est gage de... Tu vois, on parlait de lion et de laisser de soi quelque chose d'articulé, et j'aime bien. Après, on a aussi fait venir vachement de musiciens sur le disque.
Et le trompettiste qu'on entend, d'ailleurs, qui est une trompette bouchée...
Mais c'est pas une trompette, tu sais que c'est ma voix que j'ai
pire. Ah, remets-moi ça tout de suite, Lucie.
Juste pour te plaire, j'ai tout tenté.
Et je me suis fait avoir.
Et que j'ai pire. pitché à l'aigu en fait.
Ah ouais, Robson, Clémentine qui sont là, tout le monde s'est fait avoir.
Et en fait, je l'ai pitché à l'aigu. Foutu dans des machines et machin.
Quel bidouilleur ce type.
Voilà. C'est pas une trompette.
Mais tu sais, quand on t'a découvert avec une approche très littéraire des textes, on pouvait se demander si tu étais en même temps quelqu'un qui était passionné par le son. Parce que quelquefois, on a l'impression que les gens qui sont beaucoup dans la littérature, dans l'écriture, ils délaissent un peu le son, notamment en chanson française, un peu. Mais toi, t'es autant passionné par le son que par le texte et par les mots, vraiment.
Ouais, bien sûr. Ouais, j'essaye.
C'est ton âge aussi, peut-être.
Ouais, peut-être, mais en tout cas, ouais, j'essaye sur mes disques de vraiment que texte et musique s'épaulent et que, ouais, il n'y en ait pas un qui prenne forcément le pas sur l'autre. Enfin, je trouve que tout ça est une histoire de nuances et il faut que ça se mêle, ensemble. Mais ouais, je suis passionné de son. Après, j'ai encore vachement à apprendre, mais c'est fascinant quand on fait un disque d'aller.
Ah oui.
D'aller bidouiller des trucs, d'essayer des choses. Et puis j'aime bien, en fait, avec peu de choses, même une voix, tu peux très vite électroiser tout ça.
Mais c'est ça, c'est ça. Alors, on est en pleine Italie sur le 95% de l'album, et puis on va à Osaka à la fin. Et alors pourquoi on va à Osaka ? Faut qu'on quitte l'Italie tout d'un coup et tu nous amènes à Osaka.
Ça fait un bon lien avec
Clémentine. Ah, c'est un métier.
Transition, Yvan, dis donc.
C'est un métier.
Osaka, qui est la dernière chanson de cet album, qui était un peu la première que j'ai composée et qui était vraiment liée au deuxième. Où en fait, on en parlait tout à l'heure avec Clémentine, j'ai voyagé au Japon et j'ai eu à Kyoto et notamment à Osaka une vraie paix retrouvée là-bas.
Ah oui, tu as ressenti un bien-être là-bas?
Ouais, en tout cas une sérénité, ouais. Quelque chose d'apaisé, de très très doux. Mmh. Et je trouvais ça chouette de finir le disque sur cette note paisible et de l'autre côté du monde.
C'est ça, on est dans la même thématique. Alors Clémentine, évidemment, l'enchaînement est tout trouvé. Merci d'être avec nous.
Merci.
Clémentine, avec Robson. Et on le disait tout à l'heure, je le disais en introduction, voilà, une carrière extraordinaire au Japon, avec un peu plus confidentiel en France. Mais comment on arrive à être aussi connu, si je puis dire, et à cartonner autant au Japon, et avoir un peu moins de lisibilité en France?
Non, c'est pas de moins de... Enfin, si, c'est moins de visibilité, mais en fait, c'est ce que je disais à Tim avant l'interview, que c'est les Japonais qui ont aimé ma voix au début, parce que j'avais fait un 45 tours en France, et puis donc j'ai accepté de faire une carrière au Japon, chez Sony Japon. Ouais. Et voilà. Donc après, moi, j'ai pas fait de carrière ici, j'ai fait ma carrière là-bas. Et c'est seulement maintenant que je décide de sortir un album pour la France et pour le Japon.
Mais c'est super.
Voilà, donc.
Faire sa carrière là-bas, ça veut dire épouser la vie là-bas? C'est aller s'installer là-bas ou c'est...
Non, non, non. Mais j'y suis allée beaucoup. Enfin, j'habite à Paris, mais j'y allais 3-4 fois par an. Enfin, ça dépend ce que j'ai à faire, mais souvent.
Non, mais c'est je l'ai lu, quoi. Il y a vraiment une, comment dirais-je, presque une hystérie Clémentine là-bas.
Ils m'ont adopté, hein, les Japonais. Ils m'ont adopté.
Ils font des goodies à l'effigie de Clémentine,
des
trucs dans les écoles, tout ça.
Des petites poupées.
C'est incroyable. Ouais. Avec des chansons qui ont permis ça, c'est-à-dire des tubes, entre guillemets, ou pas
en fait,
forcément.
J'ai travaillé avec des musiciens japonais à l'époque, très connus, des jeunes musiciens japonais, moi française. Donc c'était des paroles en français avec des musiques japonaises. Et c'est le mélange des deux, France-Japon, qui a fait que ça a très bien marché. Et ça n'avait jamais été fait avant.
Ah super, voilà. Et puis les Japonais sont friands de la culture française, de la musique française.
Oui, ouais, ils adorent.
On est d'accord, tu l'avais constaté ça, Team Up aussi?
Ils aiment la France, hein.
Ah oui, ils sont très accueillants, et je crois qu'il y a cette fascination pour la culture et l'histoire française là-bas.
Ils connaissent comme les poncifs de la chanson, si je puis dire, Edith Piaf, Aznavour...
Oui, c'est ça, voilà, exactement. Ouais. Ouais.
Et Clémentine.
Et Clémentine, ça va, c'est trop bien. C'est magnifique, j'ai un souvenir à Osaka d'avoir fini dans un bar à jazz.
Et le finir m'inquiète un peu.
Ouais, avec du saké,
c'est terrible, extrêmement dangereux.
Oh là là.
Et y avait, ça tape, hein, le saké. Il y avait une chanteuse formidable, une chanteuse japonaise qui chantait du Aznavour. Ouais. Par cœur, sans comprendre
en
ce qu'elle chantait.
Ah non, en français.
En français. Okay. Et parfaitement, quoi. Elle comprenait pas ce qu'elle chantait, mais elle le chantait avec une précision. Et c'est trop bien.
Ça doit être même
c'est fascinant, cette histoire.
Très émouvant quand on débarque et là qu'on entend ça. Ça doit être émouvant, en fait, de savoir que quelqu'un, voilà, si loin, chante la France d'où on vient.
Bah ouais.
Avec cette ferveur.
Tu peux mieux en parler que nous.
Mais... Et Clémentine, c'est ça, donc. Et les lieux pour chanter, les concerts, sont extrêmement présents, nombreux.
Oui, il y a des grandes salle, ouais. Parce que j'ai fait des tournées avec des musiciens japonais, donc j'ai fait des tournées dans le Japon, du nord au sud, voilà, pendant
des salles
mois.
De combien, par exemple?
Des grandes salles, enfin, ça peut être 5. J'ai fait le Budokan aussi une fois. J'ai
fait le Budokan, je connais pas.
Mais j'étais pas toute seule, hein. C'est la plus grande salle à Tokyo.
Combien?
Je sais même pas combien c'est le Budokan.
Plus de
ouais, 20 000? 20, 50
000. 20 000?
50 000.
Oh la vache! Merci.
Ah, comme carrément,
mais j'étais invitée avec d'autres artistes.
Ouais, c'est bien.
Et c'était impressionnant.
Bravo, bravo, félicitations. Et donc là, tu reviens en France, si je puis dire, avec cet album de reprise où on va, voilà, sur des ambiances jazz, bossa nova, on va voir du Gainsbourg, du Jean-Yann aussi, sur deux titres dans
cet album. Du Jean-Yann qu'on connaît pas tellement en tant que chanteur et compositeur. Enfin, ouais. Deux morceaux là qu'on connaît pas trop.
Qui est médecin, Jean-Yann, qu'il était à 16h, puisqu'il prescrit du cresoxypropanodiol en capsule.
C'est ça, pour aller mieux.
Deux matins et rien
ouais,
le soir.
Exactement, avec un sucre.
On est vraiment dans une émission liée, puisque Jean-Yann était le témoin de mariage de Michel Magne. C'était son meilleur ami, le créateur du château, et ils ont énormément travaillé ensemble. Et il a fait la musique de films de Jean-Yann dans les années 70, notamment la musique de Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, qui décrit le milieu de la radio. Et c'est lui qui avait fait tous les jingles. On est vraiment dans une émission.
C'est trop bien, c'est magique, c'est mystique, allez, dirons-nous. On vous écoute alors, Clémentine et Robson, vous nous chantez un vieux titre, si puis une reprise, s'appelle Froufrou.
Oui.
Ah, c'était aussi l'émission d'une.
Oui, d'une émission de Christine Bravo. Hein.
Mais là, c'est de qui Froufrou? Attends, j'ai oublié.
C'est une vieille chanson française de
Hector Monréal.
1895. Enfin,
Henri Blondeau.
Oui.
Henri Château. Eh bien, on vous écoute avec plaisir. Applaudissements de confiance pour Clémentine en direct dans le Loft sur Sud Radio, avec Robson à la guitare.
La femme porte quelquefois la culotte dans son ménage. Le fait est constaté, je crois, dans les lignes du mariage. Et quand elle va pédalant en culotte comme un zouave, la chose me semble plus grave. Et je me dis en la voyant, froufrou, froufrou, pas son jupon, la femme froufrou, froufrou, de l'homme trouble l'âme, froufrou, froufrou, certainement la femme séduit surtout par son gentil froufrou. La femme ayant l'air d'un garçon ne fut jamais très attrayante. C'est le froufrou de son jupon qui la rend surtout excitante. Lorsque l'homme entend ce froufrou, c'est étonnant tout ce qu'il ose. Soudain il voit la vie en rose, il s'électrise et devient fou. Froufrou, froufrou, pas son jupon, la femme froufrou, froufrou, de l'homme trouble l'âme, froufrou, froufrou, certainement la femme séduit surtout par son gentil froufrou.
Merci Clémentine, avec Robson à la guitare. Extrait de Quel temps fait-il, Clémentine sur Sud Radio dans le Loft. Et j'ai vu quand même 4 millions de disques vendus au Japon.
Oui.
Ah ouais, attends, 4 millions en 25 ans de carrière.
28 ans.
Oui, 28 ans.
Ouais. Moi, je parle presque 30 en fait.
Je parle en hors taxe. quel est l'accueil des maisons de disques alors aujourd'hui? Parce que voilà, on est beaucoup dans le jeunisme, hein, quand même, si je puis dire, dans les maisons de disques. Donc,
Il n'y a pas d'accueil, en fait.
Il n'y a pas d'accueil?
Non, il faut se débrouiller tout seul.
Ouais.
Voilà.
C'est-à-dire que vous faites écouter aux maisons de disques et on vous dit non?
Ouais, enfin, on fait écouter, on nous dit ce qu'on nous dit, on a un peu peur de l'âge, on a un peu peur des 30 ans de carrière, mais à quel âge, tout ça, donc voilà. Et puis en fait, moi...
C'est rude, ça, bah, c'est terrible.
Ça. Bon, c'est pas... Non, c'est non, pas j'assume, c'est... je veux dire, je sais l'âge que j'ai pas un problème, mais après, non. Du coup, moi, je produis.
Ouais, d'accord.
Et j'ai un distributeur, je suis chez Wagram, donc ça va.
Très bien. Oui, Francis Julien, qu'on salue, à Wagram. Laurent, c'est une réalité. Ça, alors, le sport aussi, on est dans le jeunisme, de toute façon, on est dans une société de jeunisme, malheureusement.
Malheureusement, on est à montrer du doigt et mettre de la lumière sur les sportifs qui poursuivent leur carrière au-delà de 33-34 ans, alors que quand on est bien dans son corps, dans sa tête, ça ne doit pas être un problème, ça ne devrait même plus être un sujet, un sportif, s'il est efficace, s'il est performant. Qu'est-ce qu'on s'en fiche de son âge? Vraiment,
ouais, sincèrement. C'est un mec qui joue au rugby quand même, à 50 ans, ça commence à devenir compliqué aussi.
Là, c'est plus difficile pour le sport, peut-être.
Laurent.
Oui, je sais bien, mais il y a un laps de temps où on estime que les sportifs sont périmés. Et je trouve ça totalement injuste et sectaire et presque même arbitraire. C'est quand même le sportif qui sait à quel moment il est sur le déclin et il doit arrêter. Mais il y a des gens qui pensent pour eux et qui leur disent à ce moment-là, vous arrêtez. Mais c'est comme les modes, c'est comme beaucoup de choses. C'est comme dans la musique, j'imagine. On estime qu'un jour, ça, c'est fini. Et on ne laisse pas vraiment au produit sa chance, me semble-t-il.
Tim Nup, ta carrière commence, le premier album, tu avais quel âge? Parce que, pardon, c'est indiscret de te demander ton âge. Non.
Non, j'ai 26. Mon premier EP, je l'ai sorti à 21 ans.
À 21 ans. Avec cette maturité qu'on trouve dans tes textes, c'était assez troublant d'ailleurs. Je pense que ça a été une réaction assez globale. Mais qui c'est ce jeune mec de 21 ans qui crie comme ça, quoi, avec cette maturité? Et justement, cette maturité dont on parle, elle vient, tu penses, de la génération à laquelle tu appartiens, qui a accès beaucoup plus qu'avant à tout et immédiatement?
Je pense qu'elle vient surtout d'expériences de vie. Après... tu sais, je suis aussi un gosse hein, dans ma tête et c'est ça qui est merveilleux. Moi, les artistes qui m'inspirent, c'est aussi des gens qui ont conservé une enfance intacte. Tu vois, Alain Souchon, par exemple.
Oui.
Je trouve qu'il a cette même fraîcheur après autant d'années de carrière. Et c'est ce qui est rassurant, en fait. Le public aussi. En fait, on parle des maisons de disques, tout ça, mais le public, lui, il s'en fout.
Oui,
tant qu'il
vrai.
A son lot d'émotions.
T'as
et donc, je pense que Clémentine, c'est pour ça qu'elle a 30 ans de carrière. C'est parce que le public est touché par ce qu'elle fait et que... Peu importe, en fait, les devantures. Mais c'est vrai qu'en France, on est attaché à des étiquettes aussi.
Ah,
c'est difficile de se les décoller.
Et au Japon aussi. Hein, je veux dire, au Japon, au début, quand tu as 26 ans, que tu n'es pas mariée, quand tu es une japonaise, tu es déjà enterrée. Quoi,
à 26 ans?
Ah ouais.
Ah ouais, d'accord.
Donc, c'est ça, ils sont très avec des étiquettes et des âges. Et tu vieillis encore, c'est encore pire au Japon d'être plus âgé qu'ici. Ah ouais, non, ici, on est complètement détendu. Hein.
Ah bon, tu vois, il faut toujours aller voir ailleurs pour se rendre compte des choses. Laurent Jaoui, cette époque d'Hérouville, c'était quand même aussi le lien entre tous les artistes. C'était la naïveté, j'allais dire l'insouciance, la jeunesse et les excès qui en découlent finalement. C'était un peu ça aussi, parce que ces artistes étaient assez jeunes quand ils étaient là-bas.
La plupart des gens qui sont passés au château avaient entre 20 et 30 ans.
Elton John, David Bowie, etc. Et Pink Floyd. Hein.
Oui, ils avaient entre 20 et 30 ans, donc c'est l'âge formidable, c'est l'âge où tout est possible, c'est l'âge où on n'est jamais fatigué, on peut enchaîner, se coucher tard, se lever tôt, récupérer en un temps record, ne pas sentir les fait des nuits blanches, pouvoir créer. Et il y a quelque chose d'assez incroyable qui est raconté par tous les protagonistes, j'en ai rencontré une trentaine, c'est quand même ces moments communs, ces moments partagés, parce qu'il y avait plusieurs artistes au château en même temps, donc c'était des repas pris en commun le soir, ils n'avaient pas tous les mêmes horaires d'enregistrement, mais quand vous avez à la même table Pink Floyd qui échange avec Elton John, et qu'on sait que David Bowie va arriver pour faire un album de reprise, enfin tout ça c'est quand même formidable, il y a Marc Bolan qui est dans les parages, ça fait un peu mythifié, magnifié aujourd'hui, mais c'était la réalité, c'était des grandes tables dans la salle à manger, vous êtes dans un château, avec des plats gastronomiques français, les meilleurs vins, les meilleurs mets, c'est vraiment idéal pour vivre une expérience hallucinante. Quoi.
Mais on peut se demander comment ça a pris, qu'est-ce qui a déclenché ça? Parce que pour faire venir ces gens-là, est-ce que c'est finalement la mécanique qui consiste à dire s'il y en a un qui vient, tout le monde vient?
Oui, c'est
bouche-à-oreille.
C'est le bouche-à-oreille. Très sincèrement, le premier artiste qui a fait beaucoup de bien au château, c'est Elton John, il est arrivé assez tôt, puis il en a parlé en Angleterre. Marc Bolan, on a parlé à David Bowie. Bill Wyman, le bassiste des Stones, qui était dans le sud de la France, à Villefranche-sur-Mer, pendant l'enregistrement d'Exile on Main Street, ça ne passait pas très bien entre les Stones, est venu à Paris, il est allé au château, puis il en a parlé autour de lui. Et évidemment, côté français aussi, Eddie Mitchell, Claude Nougaro sont passés, et on se donnait le mot. Les artistes, ils avaient deux idées en tête. Un, on est tranquille pour travailler, à l'abri des regards. On peut faire la fête sans se faire choper par la maison de disque.
Voilà,
à l'abri des regards aussi. Exactement. Voilà, pour dire les choses franchement. Et donc, ça a vite pris. Et il y a un troisième motif qui est un peu moins avouable, qui est un motif fiscal et financier pour les artistes étrangers. c'était plus avantageux de passer un peu de temps en dehors de son pays d'origine pour les impôts. Donc ils venaient aussi en France parce que ça leur faisait payer moins d'impôts.
D'accord.
C'est une réalité un peu moins glamour, mais qui a compté aussi dans l'émergence du château.
L'album de Clémentine dont on parle ce soir dans le Loft sur Sud Radio contient combien de... C'est 12 ou 13 extraits, hein,
12.
12 extraits, absolument, oui. On parlait des 12 et des 13, tout est raccord, totalement. Il y a notamment le Mambo du Légionnaire. Un titre de Jean-Yann, justement, ce mambo. Il y a également l'idéalisation.
Je vais te faire des mitridatisés pour que mon fiel ne puisse t'épargner. Je veux t'idéaliser, je vais te faire des mitridatisés.
Idéalisation, pas l'idéalisation. Et il y a une bossa, là, on va vraiment dans la bossa avec Maria Ningen. Jean-Yann à nouveau avec cette prescription crésoxypropanediol en capsule, c'est important.
Je prends pour me remonter du trisilicate anhydrique de magnésium, du poivre de sulfure et de colate de potassium, du glycérol hydrate monoammoniacal, du bichlorhydrate de mélinocovicital, de l'octodioxybase et notocopérol.
Écoutez, c'est
crésoxypropanediol
en capsule. C'est facile pour les Japonais à comprendre ça.
Ça a été traduit, hein. Chansons, elles ont été traduites.
C'est vrai?
Ah oui.
Ben ça, c'est impossible à dire. Comment vous avez fait techniquement pour ça?
J'ai fait vite. Hein.
Et tu chantes en japonais aussi?
Oui, un petit peu. Ouais. Mais ils aiment pas. Enfin, si, ça les amuse, mais voilà. Pas
et
plus
tu le parles à force d'être allé.
Un peu, ouais. Je comprends un peu. Pas des trucs très compliqués, mais je comprends un peu et je parle un peu.
Il y a la complicité de Jean-Claude Dreyfus pour un swing relaxant.
Boom, boom, man, when you go, they'll tack your dough.
Quand j'y tape, c'est vous.
Clémentine, quel temps fait-il cet album dont nous parlons ce soir? Tu as toujours été dans ces ambiances très acoustiques, très swingantes, très bossa nova?
Oui, plutôt jazz et tout. Mais enfin, avec les Japonais, j'ai fait des choses un peu plus électro. J'ai fait aussi de l'électro et des choses un peu avec des DJ, avec Pomponiac. J'ai fait des choses un peu, voilà... plus je sais pas hype on va dire, ouais. Mais j'ai fait un peu de tout en fait depuis 28 ans de carrière, j'ai fait pas mal de choses, mais j'aime bien, enfin ma culture c'est plutôt jazz.
Alors on va jouer, c'est maintenant, tiens je sors ma trompette, regardez je montre aux réseaux sociaux la trompette, mais sors-nous ta trompette, voilà c'est fait. L'idée est très simple, c'est qu'on joue tous autour de la table autant que vous êtes, je vous joue des mélodies. Alors souvent elles sont liées, ces devinettes, au parcours de l'un de vous, d'accord. Donc là comme vous êtes trois univers, ça va concerner à un moment donné chacun de vous, et vous me dites de quelle chanson il s'agit, d'accord. Juste avec la mélodie. Bon, je suis un peu handicapé, mais on va y aller. Ceci, tiens, avec ce beat-là.
Besoin de personne, sans son. Attends, mais tu sais quoi, je t'ai entendu.
Ah mais oui, mais non, ça compte pas.
J'ai entendu à la répète.
Non, parce que là, oh, cette triche, Clémentine, quelle déception.
Non, mais j'étais la seule à avoir reconnu.
Oui, c'est pas faux. Ah, tu t'es précipité. Alors, pourquoi ce besoin de personne de Sanson? Parce que ça concerne Team Up. Le lien à Véronique Sanson, c'est il y a 2, 3, 4 ans, c'est ça?
Un peu moins, je
un
crois.
Moins, ouais.
Il y a 2-3 ans, ouais, j'ai eu le bonheur que Véronique m'invite sur son disque Duo Volatile, où en fait elle a repris beaucoup de ses chansons sur un disque collaboratif avec plein de chanteuses et chanteurs. Et on avait repris Toute une vie sans te voir.
Ça, c'est quand on a l'âge que tu as et qu'on va comme ça à la rencontre d'une icône ou de quelqu'un comme ça, ça doit être extrêmement touchant, ça.
Ah ouais, c'était bouleversant.
Si on rêve pas.
Ouais, c'était bouleversant de la rencontrer. En fait, elle est très généreuse, Véronique. Elle m'a appris des choses aussi. Et je regrette que tu sais, dans cette génération, celle d'après, dont je fais partie, il y a moins en fait cette générosité entre artistes.
Ah bon ? Tu le constates ça ?
Bah je crois, ouais, c'est difficile de faire des choses avec des gens, il y a beaucoup d'ego et parfois ça manque de simplicité. Alors que je pense que c'est là, Véronique en fait, elle a tellement plus rien à prouver, juste elle est dans le kiff quoi.
Et je trouve remarquable que tu le dises, parce qu'il y a plein de gens qui le disent pas et que peut-être qu'ils le ressentent, toi tu le dis, c'est super. Laurent, plutôt non, d'accord avec ça ?
Il a raison hein.
Bah oui, je crois qu'on puisse un constat.
J'ai l'impression que t'as levé
un constat.
C'est chacun pour soi, c'est moi je, quoi. C'est
ouais,
comme
c'est
ça.
Hein. Mais c'est
non, surtout, on n'accepte pas le mélange, on n'accepte pas l'idée. Mmh. On en revient aux étiquettes dont on parlait tout à l'heure. Ah, la date de péremption, mais ça n'a aucun sens, quoi. Mmh. Ça ne répond à aucune
Qu'est-ce
logique.
Qu'est-ce qui a fait ça Comment ça se fait qu'on a évolué vers ça C'est quoi, selon vous, qui a fait qu'on aboutisse à un égoïsme
Un cloisonnement et un formatage grandissant.
Ouais, c'est ça.
Ouais, des ghettos. Des trucs, hein, comme ça. Dans des cases. Ouais. Dans des cases comme
mais quoi,
ça.
C'est lié à la nouvelle technologie, au moyen de communiquer à, c'est quoi ? Ce serait quoi ? Ou c'est pas les mentalités qui changent
bon,
comme
après, il n'y a pas de règle. Je pense qu'il y a aussi des gens qui sont ouverts et qui ont trop envie de partager des choses ensemble, c'est
oui,
sûr.
Oui, oui, oui.
Mais je trouve que les réseaux sociaux aussi ramènent
un
certain manichéisme.
Hein. Ah ouais, vachement.
Et quelque chose d'assez binaire.
Ceci, pour l'un de vous trois. Alors, Clémentine, il faut arrêter de tricher maintenant, parce que nous ici, on ne triche pas, attention. Ceci.
Elton John.
Ah, bien joué.
Allez, t'as triché toi aussi
non,
ou pas ?
Absolument pas. On l'a pas entendu, Clémentine, quand on était.
Ah ouais, excellent.
Ouais, bien sûr. I'm still standing.
Absolument. Elton John, qui. Alors ça te concerne, Laurent. Parce qu'Elton John fait 3 albums au
Incroyable.
Château d'Hérouville et 3 grands albums d'Elton John.
Alors il fait 3 albums en 2 ans déjà, entre 72 et 74. 3 albums en 2 ans. Goodbye Yellow Brick Road, Don't Shoot Me, I'm Only Piano Player, et Honky Château, le bien nommé. Et il n'y a que des tubes. Il y a Crocodile Rock, il y a Daniel, enfin, il y a Rocketman. Enfin, c'est vraiment l'âge d'or d'Elton John. En fait, on a oublié que ce type, à un moment, a été le meilleur vendeur dans le monde, hein, tout simplement.
Et
il a illuminé le château pendant ces années-là. Il est revenu un peu après pour répéter des concerts qu'il devait donner à Wembley. Kikidi a enregistré là-bas. Il avait tout un groupe qui l'a accompagné. Il y avait son chauffeur, son cuisinier, son secrétaire, les trois étaient ses amants et ils passaient de l'un à l'autre. Il a eu comme ça, c'est vraiment ce qu'on appelle l'âge d'or d'Elton John et le film le raconte plutôt pas mal.
Ouais, j'avais bien aimé moi Rocketman, ce film.
Oui.
Où on redécouvre en fait.
Pas toujours évident les biopics, mais celui-là est plutôt juste, me semble-t-il.
Ces légendes sont tellement touchantes parce que quand on fait de la chanson, on est passionné aussi par l'histoire de la chanson en fait, comme l'histoire de l'art ou la musique, hein, Team Dub, je crois. On s'intéresse aux carrières, aux trajectoires de ces aînés, peut-être qui nous ont fascinés.
En tout cas, c'est des gens tellement inspirants. Il y a un génie. Et dans la pop aussi, enfin, et c'est marrant parce que on parle de cloisonnement tout ça, mais il y a, je trouve que Mozart a fait autant de tubes aussi que les Beatles, et c'est génial.
Oui, c'est clair,
cette histoire de la musique.
Alors, ceci, tiens, troisième devinette sur Sud Radio. C'est comme ça.
Gainsbourg.
Et ouais. Quel titre de Gainsbourg
Les voilà. Années folles, enfin oui.
Non. Petite
bébide.
Ah oui.
On y est.
Ex-Fan des 60s.
Voilà,
génial.
Ça a été plus compliqué à trouver. Pourtant, c'est pas très vieux, c'est moi qui ai mal joué. et donc.
Pas du tout.
Merci. Gainsbourg fait partie, hein, Clémentine, des gens que tu aimes particulièrement. J'imagine, il y a un titre de lui.
Oui, qui n'est pas très connu.
Il n'est pas connu du tout.
Ouais, pas connu, tellement connu. Oui, qui fait tchitch.
Gainsbourg,
c'est
parce
Michel
que...
Mercier qui chantait ça.
D'accord.
Très sexy en robe.
Mais il a énormément écrit pour les chanteuses dans les années 60-70.
Oui,
hein, énormément.
Chanteuses.
Et Michel Arnaud, tout ça, bien sûr. Anna Karina, c'est. Il faut réécouter hein, ce qu'a fait Gainsbourg pour les chanteuses, c'est vraiment formidable. Hein.
Ah oui, Sous le soleil exactement pour Anna Karina. Et puis les débuts de jazz aussi de Gainsbourg.
Mais c'était vachement bien les débuts de jazz hein, de Gainsbourg.
Grave,
ouais, j'aimais beaucoup.
Du jazz dans le Ravin.
Oui.
Black Trombone aussi,
c'est Black Trombone, absolument. On en a parlé avec André Manoukian il y a peu de temps, qui était là, qui a fait les pianos de Gainsbourg, où il y a Black Trombone, et des duos avec des belles voix féminines, qui étaient une jolie surprise. Il est allé à Hérouville, à Gainsbourg.
Alors, il n'a pas enregistré à Hérouville, mais il fait partie de ces artistes qui y sont passés, parce qu'à un moment, ça a été un lieu de pèlerinage, et son attaché de presse de l'époque, Jackie, qu'on connaît, hein, bien sûr, l'animateur
radio-télé, c'était son
attaché de presse, l'a amené au château, après il a fait le Club Dorothée, mais il faut bien vivre, et il l'a amené au château pour aller visiter l'endroit, mais c'est pas le seul, hein. Sting y est passé, Patti Smith est passé, Jean-Louis Aubert y est passé, il a carrément même voulu lui acheter le château, et en devenir propriétaire pour l'exploiter, donc c'était un lieu où il fallait aller, il y a presque un... comme quelque chose d'initiatique. Enfin, tous les gens que j'ai rencontrés, la première chose, c'est... Ah oui, je me souviens, c'était en mai 76. Il était 8h du matin, j'avais une Renault 12 rouge, je suis arrivé au château. Enfin, comme un événement dont on doit se souvenir dans sa vie. Et donc, Gainsbourg est allé passer une tête au château. Ouais.
Vous avez certainement envie de lire ce bouquin dont on a parlé ce soir, Hérouville, le château hanté du rock, par Laurent Jaoui, qui nous a rendu visite. Et c'est au Castor Music. Merci Laurent d'être passé.
Merci à vous, merci beaucoup.
C'était un plaisir. Merci Clémentine d'être venue également. Quel temps fait-il ? Ton album, et mon cher Team Dup, La Course Folle, c'est l'album qui est sorti, le troisième pour toi, vendredi dernier, et qui te conduira le 4 novembre 2021 à La Cigale, à Paris.
Merci beaucoup.
Team Dup, belle route, et merci à tous d'être venus.